On va essayer de réfléchir aujourd'hui, là, maintenant, pour Alpha connaître comment je suis venu et quel est l'état de mon cœur. Quel est l'état de ton cœur? En fait, il y a trois choses, trois tentations dans la vie d'un jeune chrétien, notamment, qui est la première, de jamais avoir assez de temps. On est toujours occupé, courir à droite à gauche. On a tous des occupations. Si vous êtes là, c'est que vous êtes investi dans votre église, dans votre communauté. Vous avez sûrement une famille, une vie étudiante, une vie avec vos amis, faites d'autres activités. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on n'a jamais assez de temps. Et pourtant, c'est une des choses les plus importantes. On l'a remarqué, c'est une notion qui est fondamentale d'avoir du temps. Parce qu'il nous permet de pouvoir prendre le temps avec les jeunes dont on s'occupe, de pouvoir rencontrer un parent ou un responsable spirituel, nous permettre de suivre une session de formation, encourager un bénévole, préparer une étude. Et d'ailleurs, le temps que vous prenez là maintenant est super précieux, ça a été dit. Donc la deuxième chose, c'est que si on veut être durable et porter du fruit, il va falloir le prendre ce temps, et notamment avec Dieu. Et en fait, on sait que c'est pas facile. On sait que c'est pas facile, surtout d'être durable. Parce que l'endurance que on met justement dans toutes nos activités, on sait qu'elle n'est pas extensible et qu'on a besoin de se ressourcer. Et puis du coup, la troisième chose ce qu'on va aborder, c'est un cœur désiré de chercher Dieu et de dépendre de lui. Et c'est une chose, moi justement, qui me tient particulièrement à cœur, parce que j'ai remarqué que dans toutes les activités que je peux faire, la seule chose qui est principale, qui est au-dessus de tout, c'est que je dépende de Dieu. Et que si j'ai pas ça, le reste qui va en découler, ça va pas forcément être productif, dans le sens où mon cœur va pas être complètement centré sur Dieu. Donc on va voir un petit peu tout ça là tout de suite. Alors je vous invite à ce qu'on se pose la question, est-ce que ma première priorité, c'est de garder mon cœur centré sur Dieu? Tu peux, c'est la suivante. Donc ça nous permettra de comprendre pourquoi la puissance de Dieu est la seule fondation possible d'un engagement qui porte du fruit, et évaluer la condition de nos cœurs. Il y a ce verset dans Apocalypse 2, verset 2 à 5 qui dit « Je connais ton activité, la peine que tu t'es donnée et ta persévérance. Tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas découragé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au commencement. » De quelle hauteur tu es tombé? Prends-en conscience, change d'attitude et agis comme tu l'as fait au commencement. Et moi, ce verset, il m'a souvent parlé, justement, dans les moments où j'étais trop surchargé, de revenir à notre premier amour, revenir se centrer sur Dieu. Alors, je vais changer. Comment devenir un follower de Jésus? Dépendant de Dieu. Tout le monde sait ce que c'est, un follower, ou pas?
Non.
Ok. Est-ce que tout le monde connaît Twitter?
Non.
Non? Ok. Donc Twitter, merci de me faciliter la tâche. Donc Twitter, c'est un réseau social. En fait, c'est du micro-blogging, je crois qu'on dit ça comme ça. Et moi, je suis pas du tout calé là-dessus. J'ai essayé un petit peu, mais j'ai laissé tomber. De toute façon, moi, tout ce qui est technique et tout ça, c'est pas trop mon truc. Mais en fait, c'est... on va mettre des petites phrases comme ça. Il y a un maximum de caractères qu'on peut mettre. Et en fait, c'est les gens qu'on va suivre sur Twitter. On dit on follow des gens sur Twitter. Ça veut dire que on est attentif à ce qu'ils postent, en fait. Donc des fois, ils marquent j'ai mangé une pomme, hashtag c'était bon, hashtag j'en mangerai bien une autre. Et des choses très intéressantes. Le truc est... Pourquoi j'utilise ce mot-là, en l'occurrence, c'est que pour Dieu, c'est juste sur lui, en fait, qu'on doit se centrer, et il n'y a que sur ses paroles à lui qu'on devrait se centrer. Et en fait, Dieu n'est pas sur Twitter, donc ne cherchez pas en rentrant ça. Ça n'a rien de créer un compte pour ça, en fait, mais tout est dans la Bible. Et il y a tous ces posts et ces hashtags dans la Bible. Une des choses que du coup auxquelles je me suis attaché dans ma conversion, et ce verset est un bel exemple,
C'est ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Proverbe 3, verset 5 à 6. Ce que j'ai pu voir que dans tout ce que je faisais, je commençais tout de suite, soit pour les jeunes, voilà le groupe de jeunes que j'animais, pour prendre un exemple, on commençait tout de suite par faire des programmes et des activités. On commençait la réunion des responsables juste par un petit temps de prière. Et puis ensuite, on tout de suite, bon, qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes? Faut les occuper. Il faut absolument qu'on mette en place quelque chose. Il faut qu'ils aiment. Il faut qu'ils aiment ça. Il faut que ça les intéresse. Waouh, ça c'est chaud. On a déjà fait ça. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver encore? Donc on se titure les méninges, etc., etc. Et puis on passe la semaine. Hein, qu'est-ce que je vais faire avec les jeunes? Donc le temps qu'on prend à préparer, on prend pas de temps avec Dieu, on prend pas de temps pour appeler les jeunes, savoir comment ils vont. Donc ça, c'est une des premières choses. Et puis j'ai remarqué que ça, ce qui en découle, c'est que faire, c'est plus facile, plus efficace et plus gratifiant qu'être. Faire, c'est plus gratifiant que être. Et si on part de ce constat-là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que Dieu veut que je change dans mon caractère, dans mon comportement, pour que justement je sois comme Dieu veut que je sois, et ensuite faire ce que Dieu veut que je fasse. Et dans quel sens on prend les choses en fait? Et ça ne m'étonnerait pas que la plupart d'entre vous me disiez que on commence quasiment tous par faire. Et justement, le temps qu'on va prendre là, c'est comment est l'état actuel de mon cœur. Est-ce que vous avez ce petit papier dans vos... Est-ce que vous l'avez tous vu dans votre manuel du participant? Donc, si c'est le cas, je vous invite à prendre avec vous. On va passer quelques minutes. Ouais, 10 minutes, en fonction de voir comment vous avancez. 10 minutes pour placer une croix entre ces deux opposés. Est-ce que, en ce moment, mon cœur est plutôt satisfait par rapport à mes activités, ma vie en général? Ou est-ce que plutôt insatisfait? Donc le principe, c'est plutôt de placer la croix sur la ligne si vous êtes plus ou moins proche de satisfait ou plus ou moins proche d'insatisfait. C'est d'accord pour tout le monde? Ouais? D'accord, pour toi apparemment c'est ok. Humble, orgueilleux, encourageant, critique, disponible, plutôt occupé. Est-ce que mon cœur est plutôt dans l'empathie? Est-ce que je cherche un peu autour de moi ce que les gens ressentent? Est-ce que je me mets à la place des autres? Ou est-ce que je suis plutôt en ce moment dans une attitude indifférente par rapport à mon entourage, ce qui peut se passer? Donc je vous invite à prendre un temps un peu, voilà, au calme et je reviens dans 10 minutes. Si vous avez des questions, il faut le dire tout de suite. Bon bah super. Bah bonne méditation, à tout de suite. Est-ce que ça va pour tout le monde? Je vous laisse quelques minutes encore, ça va. C'est bon par là. Ok. Donc c'est un exercice qui est personnel pour vous, enfin qui est pour toi. Mais pourquoi c'est important en fait de centrer sur son cœur? C'est marqué aussi dans la Bible, de garder son cœur plus que toute autre chose. Il dit aussi que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Il y a beaucoup de choses reliées à ça et des choses qui sont intimement ancrées en toi, en nous. Donc c'est important aussi d'être critique, mais juste aussi par rapport à ce qu'on est, comment est l'état de notre cœur, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avancer et de savoir aussi quels sont les obstacles. On va passer un peu à une deuxième partie, qui est comment devenir plus dépendant de Dieu. Comment accrocher mon cœur davantage à Dieu. Un verset qui dit « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6 et verset 6. Aussi, plus loin, verset 18, il est dit « Afin de ne pas le montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc ça fait beaucoup de secrets. Donc c'est important parce que c'est vraiment de cette idée de c'est moi qui prends le temps, et ce temps que je prends, personne ne pourra le prendre à ma place. Et le temps que moi je prends avec Dieu, c'est quelque chose que seulement moi je vis avec Dieu à ce moment-là, et personne ne pourra vivre ce moment-là à ma place. Et il dit aussi de ne pas, entre guillemets, montrer à tous, parce que c'est pour montrer qu'on se concentre vraiment sur Dieu, vraiment sur notre relation avec lui, et de pouvoir vraiment être en introspection devant lui. Donc, comment devenir plus dépendant de Dieu? Première chose, c'est quoi faire? Qu'est-ce que je fais pour ça? Alors, on sait que Dieu cherche des responsables et de jeunes vraiment authentiques avec lui et qui seront les mêmes personnes devant lui et devant les autres. Il cherche des hommes, des jeunes, des femmes, des hommes qui auront à cœur d'être dans le lieu secret, dans la présence de Dieu, je disais, et à l'écoute de sa parole. Et en fait, pas la peine de mobiliser toutes ces ressources pour faire de gros projets. Déjà, si vous dépendez de Dieu, ce sera parfait. Et ce qu'on dit pas, c'est que l'écoute, c'est une discipline qui nécessite un dépassement de soi. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui vient de soi, c'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose qu'on va attendre comme ça, les bras croisés, qui va arriver. On doit être actif dans cette écoute. Et il y a plusieurs habitudes qu'il faut qu'on apprenne pour devenir plus dépendant de Dieu et grandir dans notre relation avec lui. Alors, comment le faire? Donc, j'aimerais vous attirer votre attention sur six engagements qui peuvent vous fortifier dans votre vie spirituelle, six habitudes qui développent notre dépendance à Dieu. Donc, la première c'est un temps régulier et personnel de rencontre avec Dieu. Dans les questions qu'on va aborder, on va parler de ce qu'aujourd'hui vous êtes prêt à faire pour avancer. Et comme je disais, l'important c'est d'être authentique et honnête avec toi-même. Donc, une des premières questions que je voudrais poser, c'est quel est le meilleur moment dans ta journée ou dans ta semaine pour prendre un moment avec Dieu? Revois ta journée, ta semaine, et quel moment es-tu le plus disposé à prendre du temps avec Dieu? C'est-à-dire quel est le moment où ton énergie est au top pour le consacrer à Dieu? Moi, je sais que par exemple, c'est dès le matin parce que j'ai pas encore le cerveau plein d'informations et que ça m'aide aussi à être centré sur Dieu pour la journée. L'autre question, c'est combien de temps es-tu prêt à lui consacrer? L'idéal serait le maximum. C'est parce que c'est 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes, plus. Qu'est-ce que tu ferais pendant ce temps avec Dieu aussi? qu'est-ce que tu serais prêt à mettre en place? Où est-ce que tu peux faire ça? Où est-ce que tu peux être au calme? Et qu'est-ce qu'il te faut pour te préparer? Est-ce que tu as besoin d'un carnet? Voilà. Et je vous invite à vous poser cette question et à vraiment que tu t'engages avec Dieu, devant Dieu, et que ton défi ce soit de tenir cet engagement jour après jour. On le sait que c'est un défi, on sait que c'est un défi de prendre du temps avec Dieu, et on a besoin de le faire. Donc, on va vraiment prier après pour que Dieu mette en toi et en nous tous, un désir grandissant d'être dans sa présence. Le deuxième garde-fou, c'est de choisir un partenaire spirituel. Il y a un verset à la Bible qui dit, alors, dans Marc 6, verset 7, « Alors il appela les douze et il commença à les envoyer deux à deux, en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. » Qui dans ton entourage peut te soutenir dans la prière et qui peut suivre cheminement avec toi? Que vous soyez un peu d'égal à égal, mais que vous puissiez vous soutenir et vous confier ensemble. Mais aussi, avec qui est-ce que tu oserais faire ça? C'est une question à se poser. Avec qui tu pourrais être totalement honnête? Et qui serait justement disponible pour avoir ça? La troisième chose, c'est peut-être bien d'avoir aussi de le faire deux à deux, partenaire, mais aussi d'avoir un groupe pour pouvoir exercer la communion fraternelle. Vous le faites peut-être déjà au sein de vos communautés, vos églises, mais vraiment que vous puissiez trouver un groupe de chrétiens qui va vous tirer vers le haut et que vraiment que l'Esprit Saint soit dans ce groupe. Et c'est dans la discussion et l'échange qu'on grandit. Il y a quatre choses qui doivent demeurer dans ce groupe, c'est la confiance, la franchise, la vérité, la confidentialité. Le quatrième point, c'est prier régulièrement en équipe. Une équipe avec qui vous allez peut-être prendre en charge un groupe de jeunes, dans le cadre d'Alpha notamment. Avec qui est-ce que vous pourrez vraiment prendre cette habitude d'un temps de prière où deux ou trois vraiment puissent prier, intercéder ensemble pour les jeunes, montrer que vous mettiez toute votre confiance dans le Seigneur. Et en plus, on a l'habitude de faire des prières timides. On est des fois un peu, on se retient un peu devant Dieu, et puis des fois des prières TGV parce qu'on n'a pas trop le temps. Et voilà, qu'on s'attende vraiment à recevoir des directions de l'Esprit Saint. Ça peut être bien aussi d'avoir quelqu'un. Non seulement un partenaire d'égal à égal, mais aussi quelqu'un un peu qui peut donner une direction spirituelle. Vraiment, ça peut être un pasteur, un prêtre, voilà, un mentor, quelqu'un. Et puis ça, c'est encore plus dur à faire, donc on monte de niveau dans le challenge. C'est de pouvoir c'était le point d'avant encore, s'il te plaît, merci. Donc un temps de retraite deux fois par an. Alors, pourquoi le faire? Pourquoi faire ça? Dojo, si tu veux bien passer à la suivante, merci. Pourquoi le faire? Donc, la première chose, c'est parce que c'est un gage d'amour quotidien. Prendre le temps de s'écouter, de se retirer pour faire le bilan, par exemple, des 6 derniers mois. Demandez vraiment de vous montrer où est-ce qu'il faut que vous recadrez vos 6 prochains mois et le faire. Alors, dans Jean 14, verset 21, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Et il y a une autre citation qui dit « La consécration au lieu secret, le premier grand acte d'obéissance du Saint. » Et en fait, on continue à parler ça, de vraiment de ce temps secret, parce que un temps de retraite, c'est aussi un temps que vous allez prendre à part. Donc, vous aurez peut-être du temps pour vous et du temps en équipe. Et on continue à parler un peu de cette notion de temps, mais c'est ça qui est important. Et puis, la chose, c'est que c'est notre priorité, parmi toutes nos priorités, de prendre du temps et d'écouter Dieu, je le disais. Et l'intimité précède la vision. L'intimité précède la vision. On peut prendre le temps vraiment de voir où Dieu veut nous emmener. Et puis, la passion précède le but. Qu'est-ce qui me motive à aller de l'avant. Et c'est pour ça que le lieu secret, c'est vraiment là, en premier, où on va avoir cette direction divine pour aller en avant. Et puis, la troisième chose, c'est on a besoin tellement de ce temps avec Dieu, parce que c'est lui l'expert. L'expert en Dieu, c'est Dieu. Et peut-être banal de dire ça, mais en fait, les choses ne changent. Bob Sorge dit, les choses ne changent pas quand je parle à Dieu, mais les choses changent quand Dieu me parle. Les choses ne changent pas quand je parle à Dieu, mais les choses changent quand Dieu me parle. Et je dis pas que ça veut pas dire que faut pas prier, que c'est pas important de parler à Dieu. C'est juste qu'en fait. Quand on prie et qu'on est dans ce temps avec Dieu, on est plutôt, on doit plutôt être dans l'attente, enfin dans l'écoute, ouais, dans l'attente de la volonté de Dieu par rapport à ce qu'il veut pour ta vie. Et en fait, certaines personnes consacrent le meilleur de leur énergie à des pensées créatives, mais en fait, il y a un verset qui tue tout. C'est l'Éternel renverse le conseil des nations, il anéantit les projets des peuples. Le conseil de l'Éternel subsiste toujours. Et c'est un peu genre, si on veut mettre tous les projets, mettre toute l'énergie qu'on veut dans nos projets, le faire par nous-mêmes, on peut, il n'y a pas de souci, mais ça ne va pas marcher. Donc, voilà, ça calme. Et en fait, je vous dis ça parce qu'on doit se forcer juste d'être obéissant. Merci Seigneur pour notre énergie créative, merci Seigneur pour notre énergie qui nous pousse en avant, qui vraiment pour notre intelligence qui nous permet de mettre des choses en place. Mais Seigneur, qu'on soit toujours plus obéissant à toi, à ta parole. Alors on va prendre pour finir un petit temps. Vous allez écrire sur le cœur là, sur le cœur, sur votre feuille. Trois domaines d'activité vraiment qui vous prennent le plus de temps. Trois choses qui vous prennent le plus de temps dans votre vie. Je vous invite à l'écrire sur à l'intérieur du cœur. Et parmi tout ça, un peu les trois principales activités pour un peu voir ce qui prend le plus de temps. Mais quel est parmi tout ça, dans tout ça, le principal obstacle qui vous empêche d'avoir une relation plus proche à Dieu? Alors, on l'a dit, c'est le temps. Mais parmi tout ça, qu'est-ce qui spécifiquement vous empêche, en fait, quel obstacle principal vous empêche de prendre un peu plus de temps avec Dieu? On va prendre juste 2 minutes et vous invite à écrire ça sur votre feuille. Donc, les trois domaines d'activité qui vous prennent le plus de temps et le principal obstacle qui vous empêche d'avoir une relation plus proche avec Dieu.
Si vous
n'avez pas tout trouvé, c'est pas grave, pas de panique. Vous avez aussi tout le week-end pour le faire. En fait, ce que je veux vous faire comprendre, c'est pas la peine de tomber dans deux extrêmes. C'est pas la peine de tomber dans une sorte de piété qui vous dispense d'agir et rester chez vous et dans votre chambre, dans le lieu secret et de prier. Et l'autre extrême, c'est du coup un activisme qui brasse de l'air. Et l'important, c'est de toute façon, c'est l'équilibre entre les deux. Alors, il y a une petite histoire. C'est pas une blague, hein, donc vous n'êtes pas obligé de rire. Bon, peut-être ça vous fera rire, hein, je sais pas. Alors, en fait, c'est un bûcheron qui était qui travaillait vachement bien et qui prenait, enfin voilà, qui voulait toujours vraiment en faire plus. Et puis le bûcheron, il a embauché dans une société. Et puis la première semaine, comment c'est le bûcheron, il coupe un nombre remarquable d'arbres. Enfin, vraiment, il a pété son record et c'est voilà, il est super content. Mais la deuxième journée, il y a la quantité d'arbres coupés, elle diminue de moitié. Alors qu'il redouble d'efforts. Il y a un problème quelque part. Le troisième jour, ça baisse encore. Alors qu'il a encore quadruplé d'efforts. Bon, il se dit, c'est bizarre. Il va voir du coup son patron. Il dit qu'il n'a plus besoin de toi. T'es plus, laisse tomber, t'es plus efficace. T'embauches plus. Il dit, mais attendez, vous avez vu toute l'énergie que j'ai mis? Enfin, c'est un truc de fou. J'ai mis toute mon énergie pour faire tout ça. Et pourtant, vous avez bien vu comment j'ai travaillé. Je dis oui, j'ai vu. Mais peut-être que t'aurais dû t'arrêter quelques fois pour aiguiser ta hache. Et oui, vous pouvez rigoler. En fait, c'est ça, des fois, on est à fond et finalement, il y a quelque chose qui bloque, on ne sait pas pourquoi. C'est juste que ce temps pour aiguiser ta hache, c'est ce temps avec Dieu. Et il y a un verset qui dit « Lequel d'entre vous veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, pardon, et voir s'il a de quoi la terminer. » Donc voilà, il n'y a pas d'opposition entre prendre un temps et être actif. Mais sauf qu'il faut un équilibre entre les deux. Et surtout pour conduire les jeunes vers Jésus, on a besoin de passer du temps. Et les jeunes ont besoin de voir aussi en nous l'œuvre de Dieu. Et moi, j'ai remarqué que ben voilà, souvent, plus je m'affairais à faire quelque chose, et moins ça semblait efficace. Et il y a des fois où j'ai pris les choses de façon beaucoup plus simple, et en remettant d'abord les choses à Dieu, et le fruit était là. Le fruit était là. Et vraiment, je vous invite du coup pendant tout ce week-end et dans ce que vous ferez après dans vos activités, à être vraiment attentif à Dieu, à vraiment vous remettre pleinement à lui, à être dépendant de Dieu. Et voilà, j'aimerais juste terminer par la prière ce temps et prier pour nos cœurs à tous. Seigneur, je te remercie parce que tu as placé des choses en chacun de nous. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui par hasard. Seigneur, merci de nous avoir guidés. Merci Seigneur parce qu'on veut faire de notre mieux et tout notre possible pour amener les jeunes à toi, qu'ils puissent te découvrir combien la vie avec toi est passionnante. Et Seigneur, parfois c'est vrai, on s'y prend pas de la meilleure des façons. Mais Seigneur, que du coup tu nous rappelles à toi. Tu nous rappelles à toi chaque jour. Que chaque jour on puisse se dire... Seigneur, je me remets à toi. Que ce soit pas juste notre conversion, mais vraiment tous les jours que puisse se dire, Seigneur, je m'en remets complètement à toi et je suis un outil entre tes mains et fais ce que tu veux de moi. Amen.